Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Open Box TV, l'émission de géopolitique et de géostratégie d'Alain Juillet. Et un grand merci aussi pour tous vos commentaires élogieux. Et un remerciement tout particulier à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee avec des dons à la fois modestes et pour certains très conséquents. Donc bravo à vous de nous soutenir de cette façon. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle émission.
Absolument.
Avec un sujet qu'on a déjà traité, mais je crois que ce sujet va tellement vite dans cette zone du monde qu'il faut absolument refaire des points un petit peu réguliers.
Alors absolument. Je crois que nous sommes aujourd'hui avec, comme tout le monde le voit, vous l'entendez à la télévision, vous l'entendez à la radio, vous lisez dans les journaux, nous sommes à un tournant indiscutablement au niveau de la guerre en Ukraine. Et il est donc intéressant d'essayer, une fois de plus, de décrypter ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, parce qu'on lit beaucoup de choses, mais comme toujours, on s'aperçoit qu'une bonne partie des informations utiles sont complètement laissées de côté. Et je vais prendre un exemple, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir en parler de manière très approfondie avec un ami, le général Christophe Gomard, qui a été le directeur du renseignement militaire français, donc qui peut mieux parler que lui de ce genre de problème. Et je disais, je vais prendre quelques exemples avant pour montrer un peu ce qui se passe. Regardez Janet Yellen. Janet Yellen, c'est la présidente de la Fed. Vous savez, c'est la qui contrôle complètement la monnaie américaine, le dollar. Il faut absolument arrêter la guerre en Ukraine parce que ça va pour permettre aux économies occidentales de redémarrer. Intéressant. Le général Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, dit « il est temps de négocier parce qu'il faut arrêter la situation actuelle et la dégradation actuelle ». Vous avez le département d'État, le numéro 1, Blinken, du département d'État, qui fait déclarer officiellement, qui dit « il faut que M. Zelensky accepte de pouvoir négocier, au nom bien sûr de l'Ukraine, hein, même si le président Poutine est encore en poste ». Parce que Zelensky avait déclaré que il ne négocierait jamais tant que Poutine serait là. Et vous écoutez hier le président Zelensky dire « il faut qu'on démarre les échanges de prisonniers ». Donc on voit bien, quand vous entendez toutes ces informations venir de partout, c'est que, à l'évidence, il se passe quelque chose, il y a des négociations. Et alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai, il y avait eu un début de négociation entre les Américains et les Russes. Donc nous sommes dans ce processus. Et alors c'est là où je crois que le général Gomard, Christophe Gomard, peut nous éclairer encore beaucoup plus que d'autres. Et je crois qu'il y a un premier point essentiel, et ce qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé, c'est l'histoire de Kherson. Alors Christophe, bonjour.
Bonjour.
On vient de voir le retrait par les Russes de Kherson avec une opération de communication disant « oui, je me retire de l'autre côté ». Et puis ensuite l'arrivée d'ailleurs du président Zelensky avec 100 gilets pare-balles hein, au milieu de Kherson qui est en parfait état. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce repli stratégique? Parce que c'est quand même un repli stratégique. Certains disent que c'est une défaite, une déroute ou autre. Mais en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui vient de se passer autour de Kherson et à Kherson?
Alors, merci Alain de cette question. Je trouve ça, la séquence est très intéressante. Si on monte un peu en arrière, Kherson est la grande ville prise très rapidement par les Russes. Preuve qu'il y avait sans doute des gens qui les ont aidés en interne dans la ville de Kherson, mais en même temps une vraie résistance, parce qu'on se souvient de ces images dans lesquelles on voyait la population de Kherson manifester pacifiquement face aux soldats russes en agitant des drapeaux ukrainiens. Finalement, certains manifestants ont été arrêtés, d'autres ont sans doute été battus, mis en prison, que sais-je. Mais bon, les Russes ont pris cette ville et en ont fait une ville russe. Et on voit sur les affiches, avoir un passeport russe permet d'être mieux protégé, etc., etc. Donc ils en ont fait une vraie... mais ils étaient arrivés à une espèce de... en définitive, ils étaient incapables d'aller beaucoup plus loin. La ville de Kherson, pour eux, était un point d'appui nécessaire s'ils visaient aller jusqu'à Odessa, même si Odessa était très loin, en réalité. Et on s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient dans l'incapacité d'aller à Odessa, compte tenu des moyens déployés initialement au début de la guerre. C'est-à-dire qu'ils n'ont déployé que 150 000 à 200 000 soldats, ce qui était insuffisant, de mon point de vue, pour prendre la totalité de l'Ukraine. Et Kherson, donc ils avaient 20 000 ou 30 000 soldats dans l'oblast de Kherson, c'est-à-dire en fait au nord du Dniepr, sur la rive droite du Dniepr, et avec lesquels ils ont tenu. Mais ils étaient arrivés un peu dans une impasse, dans la mesure où finalement les Ukrainiens progressaient ailleurs, eux-mêmes commençaient à régresser, à lâcher du terrain dans cet oblast, et finalement... Comment est-ce qu'on se sort de cette affaire? Effectivement, militairement parlant, il valait mieux se repositionner sur la rive gauche du Dniepr, c'est-à-dire au sud, qui, le Dniepr, qui est une rivière, un fleuve très large en réalité, voire plusieurs centaines de mètres, on peut parler en kilomètres à certains endroits. Donc très difficile à franchir si on n'a pas des ponts. Même avec des ponts flottants, c'est une opération de longue haleine. Et finalement... J'allais dire, ils ont fait une analyse, et la séquence suivante, c'est où on voit, celle où on voit le général Sourovikine, donc qui est l'homme qui commande les forces, j'allais dire, le corps expéditionnaire russe, qui s'exprime devant Shoigu, le ministre de la Défense russe, dans lequel il dit, ben voilà, en fait, après une analyse stratégique très poussée, nous avons décidé de nous replier sur la rive gauche du Dniepr, pour protéger nos soldats, donc avec un double message. Vous savez que les Russes étaient accusés d'utiliser les soldats comme chair à canon. Et donc c'était un message à la fois vis-à-vis des Russes, en disant mais on prend soin de nos soldats, regardez, en fait on les retire avant qu'ils soient tués sous les coups d'artillerie ukrainienne et occidentale. Donc en fait il y avait un double message. Mais en même temps, c'était, je pense, la conséquence ou le résultat d'un dialogue amont entre Russes et Ukrainiens, pour dire, écoutez, on se retire en bon ordre de l'autre côté du Dniepr, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de bombardement, parce qu'il n'y a rien de pire pour une armée qui est en retraite et qui doit franchir une rivière ou un fleuve, que de se faire d'être sous les coups de l'artillerie adverse. Et finalement, c'était un succès, parce que évidemment, cette armée russe s'est repliée en bon ordre. Alors, succès dans le repli, échec, parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir Kherson. Quand on reprend le franchissement des fleuves, on parle de la Bérézina. La Bérézina, les gens voient ça comme une défaite de l'armée de Napoléon. Or, en fait, c'est un vrai succès de repli tactique, parce qu'il a fallu franchir cette rivière, la Bérézina, avec les pontonniers qui ont créé des ponts très vite pour, effectivement, faire replier toute la grande armée qui était effectivement qui évacuait la Russie. Il faut faire passer tout un tas de gens au même point, alors qu'il y en arrive de partout. Et donc, effectivement, il y a un rétrécissement, un point de faiblesse, parce qu'on peut être sous les coups d'artillerie adverse. Donc, il y a eu forcément un dialogue pour laisser Kherson, tel qu'on a pu le voir, avec un président Zelensky, qui, effectivement, comme vous le soulignez, Alain, se balade dans Kherson sans gilet pare-balles.
Je voulais revenir là-dessus, parce que sur le Kherson, je le dis pour les auditeurs, il faut aussi bien voir quelque chose dont peut-être on n'a pas assez remarqué. Pourquoi les Russes ont foncé sur Kherson dès le départ, très très vite? C'est parce que de Kherson, du fameux barrage dont on a beaucoup parlé sur le Dniepr, part un canal qui amenait l'eau à la Crimée. Et quand en 2015, Poutine a récupéré la Crimée, les Ukrainiens ont coupé l'eau qui arrivait à la Crimée. Il y a eu des problèmes énormes à ce moment-là. Il a fallu construire un pipeline d'eau, d'approvisionnement d'eau pour la Crimée depuis la Russie. Et donc, stratégiquement parlant, le canal qui amène l'eau de Kherson sur la Crimée est un élément important de l'histoire. Alors, quand les Russes étaient des deux côtés, ils contrôlaient complètement le canal et le barrage, bien entendu, à travers donc, le barrage. On a vu, quand il y a eu les premiers tirs, les attaques ukrainiennes, les Russes, indiscutablement, ont eu peur que le barrage saute. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils ont évacué une grande partie de la population, d'une part. Il n'y a pas que ça. Mais aussi, on a vu que chaque fois que les Ukrainiens ont tiré, les Russes ont fait de la publicité sur les tirs contre le barrage, en disant « attention ». En réalité, et maintenant qu'ils sont sur un côté et les Ukrainiens de l'autre, Les deux, la situation est stabilisée, et bien sûr, les Russes se disent on va pouvoir continuer à pomper l'eau pour le barrage, pour la Crimée. Donc là, il y a un aspect aussi technique, on protège l'approvisionnement en eau de la Crimée, au-delà du repli stratégique.
Il y a un deuxième aspect, c'est la centrale nucléaire de Zaporijjia.
Ah, ça aussi.
Parce que pourquoi les Russes l'ont pris, c'est la même chose, c'est pour alimenter l'électricité, en fait, la Crimée. Donc en fait, il y a ces deux points absolument essentiels pour la Crimée, que sont l'eau et l'électricité, donc à travers ce canal d'eau douce et la centrale nucléaire de Zaporijjia.
Zaporijjia, où je rappelle aussi que le jour où l'AEIA, vous savez, quand il y a eu, à la demande d'ailleurs, à la demande de tous les Occidentaux, hein, on nous disait tellement qu'il y avait des bombardements sur Zaporijjia, sur la centrale nucléaire, en nous disant d'ailleurs que c'était les Russes qui tiraient sur la centrale nucléaire, ce qui était difficilement compréhensible puisqu'ils étaient dedans. Et on ne voit pas des soldats tirer sur une centrale pour se faire irradier et se faire tuer. Donc là, il y avait une magnifique opération de propagande dans l'autre sens. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'AEIA est arrivée, le matin même, il y a eu deux tentatives par les Ukrainiens d'attaque par le Dniepr, par des forces amphibies, des forces spéciales amphibies, d'attaquer la centrale pour montrer qu'il y avait un climat d'insécurité, justement dans cette fameuse centrale qui était un enjeu stratégique majeur. Et les deux ont été arrêtés, et ce qui fait que la centrale est effective, exactement comme la partie sud de Kherson, est toujours contrôlée par les Russes.
Donc Kherson, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le début d'un dialogue, voilà, dans tous les cas réel, puisqu'il y a une vraie conséquence sur le terrain, de Russes qui ont abandonné la ville de Kherson et donc l'oblast de Kherson, dans lequel il y avait quand même 20 000 à 30 000 soldats, qui se sont repliés en bon ordre de l'autre côté du Dniepr. Zone à partir de laquelle, de mon point de vue, ils vont tenir cette ligne. Ouais. La vraie question que j'ai, c'est est-ce que les Ukrainiens ne vont pas chercher à prendre pied sur cette rive gauche du Dniepr? Et on voit bien que certains ont fait une tentative, ou en tous les cas ont lancé des reconnaissances vers la presqu'île de Kinburn, qui est en fait à la confluence entre la mer Noire et le Dniepr, et de façon effectivement à essayer de remonter par cette espèce de presqu'île vers la rive gauche du Dniepr, pour essayer peut-être d'en déloger les Russes. Ça, je n'ai pas plus d'informations sur cet élément, mais en tous les cas, c'est à suivre. Mais la guerre continue. Oui. J'allais dire, c'est pas bien parce que les Russes se sont repliés de Kherson que la guerre ne continue pas. Et il y a des échanges des tirs d'artillerie qui continuent à avoir lieu entre de la rive gauche vers la rive droite et de la rive droite vers la rive gauche, donc entre les armées ukrainiennes.
Et comme vous le disiez, une opération de franchissement d'une rivière de cette largeur est quand même un très gros obstacle et très difficile à réaliser pour une armée actuelle avec les moyens des deux côtés, les moyens d'artillerie, les moyens de surveillance et autres.
Oui, c'est excessivement compliqué. Oui. C'est pour ça que les Ukrainiens, grâce en particulier aux canons César et aux HIMARS américains, avaient en partie détruit les ponts. Qui pouvaient alimenter, en tous les cas, qui étaient le flux logistique pour l'armée russe, le corps expéditionnaire russe qui se retrouvait sur la rive nord du Dniepr, de façon à éviter effectivement le transport de véhicules lourds. Donc en fait, les Russes étaient obligés d'utiliser des barges pour franchir le Dniepr et effectivement assurer la logistique de cette armée engagée au nord. Et je pense qu'on arrive à un point où les deux armées, finalement, sont à peu près à un équilibre. Le chef d'état-major américain a annoncé qu'en disant qu'il y avait 100 000 soldats russes hors de combat, c'est-à-dire environ 30 000 morts, et puis entre 25 000, et puis des blessés ou des disparus. Et il ajoute même, et il est sans doute, ça doit être sans doute équivalent côté ukrainien. Donc je pense qu'effectivement, quand il y a une guerre comme ça un peu frontale, il y a autant de morts et de blessés de part et d'autre. Donc je pense qu'il y a environ 100 000. Donc en fait, ces deux armées arrivent à un point où il y a des difficultés d'approvisionnement en munitions, des deux côtés, puisque côté ukrainien soutenu par les Occidentaux, même les Occidentaux disent, attendez, moi j'ai plus tellement de munitions, regardons les Français, on n'a pas des réserves en munitions énormes, donc on ne veut pas taper sur nos stocks stratégiques, qui seraient là en cas d'attaque, si jamais les Russes voulaient aller plus loin. Mais je ne pense pas que les Russes aient la capacité d'aller beaucoup plus loin que là où ils sont.
De le faire,
Donc en fait, on arrive effectivement au temps, et vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, où les gens veulent... Effectivement, on recommence à parler de paix, alors qu'on n'en parlait plus du tout. On sent bien qu'à travers le G20 qui se réunit aujourd'hui à Bali, dit aux Russes qu'il faut aller vers la paix, dit aux Russes qu'il ne faut pas utiliser le nucléaire. Mais ça, on peut revenir sur le nucléaire, qui, à mon avis, c'est le hochet qu'on agite pour faire peur de part et d'autre. Mais personne n'a jamais voulu, de mon point de vue, l'utiliser. Les conséquences seraient tellement dramatiques pour toutes les parties que, à mon avis, c'est l'arme du non-emploi, en réalité, l'arme nucléaire. D'ailleurs, d'où le fait d'étenir cette arme nucléaire, c'est bien pour ça que des Iraniens ou des Coréens du Nord cherchent à l'acquérir. C'est pour éviter un jour de subir l'invasion qu'ont subi l'Irak, par exemple, par les Américains en 2003. Donc en fait, on arrive, et l'échange de prisonniers, qui avait déjà commencé, est un point important, puisqu'on appelle à un échange complet des prisonniers détenus par les deux camps. Et finalement, on est vraiment au début d'un dialogue. Et ce dialogue, en fait, a toujours existé. C'est-à-dire que, bien sûr, d'abord, notre président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, a maintenu ce lien, alors plus ou moins ténu, mais
il l'a maintenu.
On sait qu'il l'a maintenu. On sait que, par ailleurs, il y a des gens de son entourage qui rencontrent les Russes. Et cette nécessité du dialogue, et d'ailleurs, c'est l'un des rôles des services secrets, c'est d'assurer cette liaison malgré les conflits, pour assurer effectivement des échanges de prisonniers, pour assurer un passage, j'allais dire, on a parlé de la guerre des céréales, mais même chose, en fait, ça s'est fait par des négociations dont on parle peu, et heureusement, ça se fait, j'allais dire, en dessous du niveau de la mer. Donc, on arrive effectivement à un point, et Kherson est vraiment l'exemple, certes, échec pour les Russes, victoire tactique pour les Ukrainiens, et on en est là, finalement. On en est à cette espèce d'équilibre. Jusqu'où va-t-on aller dans cette tentative de négociation? Est-ce que, parce que les conditions imposées, enfin, voulues par les Ukrainiens comme celles voulues par les Russes sont intenables, par la partie adverse.
C'est clair. Je voudrais, pour rebondir sur une chose que vous venez de dire, pour nos auditeurs, sur l'histoire des céréales. Il faut bien savoir que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne le croit. Vous avez pu voir, il y a eu des tensions au départ. Les bateaux étaient bloqués dans le port d'Odessa. Ils ne pouvaient pas s'approvisionner en céréales. Et puis, on a mis un couloir, après de longues négociations, faites sous l'égide des Turcs, on a pu mettre un couloir avec le contrôle des bateaux pour être sûr qu'ils ne transportaient pas dans un sens ou dans l'autre des armes ou d'autres choses. Un contrôle lorsqu'il passait le détroit du Bosphore, donc à Istanbul. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que d'autres pays avaient des intérêts très importants. Les gens ne savent pas que entre 2015 et 2021, les trois compagnies américaines, Cargill, DuPont et...
Monsanto, je crois.
Monsanto, excusez-moi. Oui, en plus, c'est connu. ils ont racheté 28% des terres arables ukrainiennes contre l'avis, bien sûr, des Ukrainiens, des paysans ukrainiens qui n'étaient pas d'accord, mais avec l'accord, bien sûr, du gouvernement ukrainien, ils ont racheté. Donc, 28% de la production de céréales ukrainiennes appartient aux États-Unis, ou à des compagnies américaines. Donc, quand ça sort d'Odessa pour aller vers Istanbul, il faut savoir qu'un tiers, en gros, un tiers des céréales vont rapporter de l'argent aux Américains. Alors, ça explique aussi, d'une part, l'importance de cette exportation de céréales, parce que on nous a dit dans les campagnes de propagande, et c'est là-dessus que je voudrais arriver, on nous a dit que c'était un problème énorme parce que les Russes affamaient les populations. Il n'y a pas que les céréales ukrainiennes qui approvisionnent le monde entier. Et fort heureusement, il y a d'autres produits céréaliers dans le monde. Mais derrière tout ça, et là je reviens à ce qu'on disait parce que ça correspond à ce qui est en train de se passer, à ces déclarations des uns et des autres, depuis le début de cette guerre, on est face à des opérations de propagande, comme toujours des deux côtés. Souvenez-vous, je vous rappelais tout à l'heure, moi, quand dans les Balkans, par exemple, le porte-parole de l'OTAN, Jimmy Hoshi, tous les jours faisait un compte-rendu de ce qui se passait, et aujourd'hui, on peut voir, en comparant la réalité avec ce qu'il nous disait, que c'était un monument fort réussi, hein, mais un monument de désinformation totale. Bon, quand on regarde les déclarations, les opérations de communication des Russes, et des Ukrainiens, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est aussi face à des opérations de propagande et de désinformation. Tout à l'heure, Christophe citait le cas de cette discussion absolument invraisemblable entre le ministre de la Défense et son chef des armées qui combattent en Ukraine, où l'un dit à l'autre, « Monsieur le ministre, je vais partir, je vais faire replier mes troupes. Hein. » C'est magnifique, c'est théâtral, mais... qui peut prendre au sérieux que ce n'est pas quelque chose qui est préparé pour faire passer le message qui a été dit par Christophe Gomard. Quand on regarde Zelensky, et je voudrais qu'on en parle, parce que c'est quelque chose de fantastique. Quand on le voyait justement à Kherson, avec sa tenue kaki, son t-shirt kaki, donnant... On sent bien qu'il y a... Et il nous sort tous les jours des informations... qu'il faut atténuer de manière très, très approfondie, parce que des fois, ils nous racontent des histoires pas crédibles, mais dans d'autres cas, comme là, pour dire il faut qu'on échange les prisonniers, ce sont des éléments factuels vrais qui sont insérés dans un ensemble qui vise à nous faire prendre parti, évidemment, pour celui qui s'exprime. Hein, je pense que...
Ah oui, mais c'est vrai. Je trouve qu'en termes de communication, il y a des vraies leçons à apprendre de la communication ukrainienne. Volodymyr Zelensky joue un rôle parfait, sans doute bien appuyé par des agences de communication qui lui ont conseillé depuis le début de se mettre en t-shirt kaki, en uniforme kaki. Et c'est remarquable.
C'est remarquable.
Il est sur le terrain, on le voit au milieu des troupes. Il va au contact, un peu comme le petit père de la victoire, Clémenceau, qui allait dans les tranchées, souvenons-nous, donc pour, j'allais dire, motiver les soldats ukrainiens, pour leur rapport, leur dire « je suis présent, je suis avec vous, nous allons vaincre », c'est remarquable. Et de l'autre côté, quand on voit la communication russe, c'est une communication un peu soviétique, j'allais dire, où on voit tous les gens sont figés. Il y a une séquence où on voit un Vladimir Poutine qui va sur un champ de tir voir des réservistes s'entraîner lui-même. On le voit tirer au fusil de précision. Mais c'est la seule fois. Et on voit là effectivement ce général Sourovikine avec le ministre de la Défense Shoigu. C'est une pièce de théâtre.
Ah, c'est une pièce de théâtre.
Exactement, ce que vous disiez là. C'est assez remarquable.
Ah, ouais,
et donc il y a une vraie communication. Et cette communication, elle est faite à la fois vers sa propre population.
Oui. Pour
rassurer. Dans le cas de Sourovikine, c'est pour dire, vous voyez, on prend soin de nos soldats, contrairement à ce que les gens veulent nous faire dire. Et dans le cas de Volodymyr Zelensky, c'est vis-à-vis également de sa population. Vous avez vu, on a reconquis et donc il motive tout le monde. Il entraîne derrière lui tout le monde. Mais en même temps, on dialogue vis-à-vis des Européens et des Américains côté Volodymyr Zelensky, mais aussi des populations russes. Pour dire, vous avez vu, on est en train de gagner, donc arrêtez de soutenir cette guerre parce que de toute façon vous allez perdre et vous allez être humilié. Or, la fierté russe va être mise à mal. Et côté russe, c'est de dire, non, pas du tout. Voilà. Sachant quand même que aujourd'hui nous en sommes quand même à 100 000 km² du territoire ukrainien qui est toujours tenu par l'armée russe. Certes, les Russes ont perdu un peu du terrain conquis initialement, mais pour l'instant ils n'ont pas encore perdu la guerre. Et en termes de communication, c'est ce qu'il faut voir. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky est sur une communication très offensive, très agressive. Je veux dire que les Russes cherchent aussi. Mais quand on voit leur porte-parole, ça fait un peu, ce que je disais à l'instant, ça fait un peu soviétique, ça fait un peu rigide. Et on a tendance à pas les croire, même si, de temps en temps, ils disent la vérité.
Des deux côtés, la difficulté, c'est de voir ce qui peut être vrai et ce qui est certainement faux.
Oui.
Et c'est très difficile parce qu'il y a un mélange permanent des deux côtés. On est dans une... Vous savez, c'est la guerre hybride. Hein. Dans la guerre hybride, il y a la partie militaire, la partie économique, la partie civile, mais il y a aussi la partie communication. Et là, on est en plein dedans.
Oui, oui, et c'est utile pour les deux, c'est-à-dire qu'il y a vis-à-vis leur propre population, vis-à-vis des alliés et vis-à-vis de l'adversaire. Donc en fait, il y a ces trois angles d'attaque.
Et un point d'ailleurs là-dessus, je voudrais qu'on peut juste pour faire un commentaire dans cette affaire-là. Regardez l'histoire, par exemple, de la conscription. Vous savez que Poutine a lancé le recrutement de 300 000, enfin, a rappelé 300 000 jeunes ou un peu moins jeunes russes. Pour aller faire la guerre, parce qu'il s'est rendu compte, comme ça a été rappelé maintenant, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de troupes par rapport à la taille des troupes d'en face, puisqu'il faut, dans les rapports de force, il faut quand même un minimum de soldats de côté, sans entrer dans les calculs techniques des militaires sur le 3 contre 1 et autres. Bon. Ce qui est très intéressant de voir, c'est la communication sur cette affaire-là. En Occident, bien entendu, c'est la propagande, on a dit, regardez comme les jeunes Russes partent tous à l'étranger pour ne pas faire le service militaire. Mais bien sûr qu'il y en a eu. Mais maintenant, la question que je vous pose, si demain matin, le président Macron déclenchait la mobilisation en France, combien de jeunes partiraient pour l'étranger pour ne pas faire la guerre? Pareil. Parce que nous sommes maintenant dans un monde dans lequel une bonne partie de la population n'a aucune envie de se faire tuer pour son pays, il faut bien le dire. Nous ne sommes plus à l'époque de 1914 ou de 1940, il faut dire la vérité. Donc ça aussi, ça fait. Donc il y a besoin de communication pour donner confiance, c'est ce qu'on disait. Mais je voudrais revenir aussi sur un autre point, parce que là, on va qu'on l'approfondisse un petit peu. Christophe, vous disiez. Les Russes ont quand même gagné énormément de terrain, et en particulier, il faut bien voir, ils ont gagné toute la partie de la mer Noire. Parce que ça, on l'oublie, mais ne l'oublions pas, entre le début de la guerre et aujourd'hui, ils ont récupéré toute la côte de la mer Noire jusque à la hauteur, enfin en face de Kherson, enfin jusqu'à l'entrée en définitive du Dniepr, l'embouchure du Dniepr, hein, en passant par Mariupol, ils ont gagné tout ça qui était l'autre côté par rapport à la Crimée. Donc, et là, ils contrôlent les ports. Il n'y a plus qu'Odessa qui leur échappe. Hein. Donc ça, c'est très très important pour bien comprendre ce qui se passe. Mais je voudrais revenir sur un, pour avoir votre avis là-dessus. Quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, premier temps de l'opération, alors on va parvenir sur le fait que les Russes ont surpris tout le monde en déclarant la guerre et en attaquant. Ça, tout le monde pensait qu'ils ne le feraient pas, quel que soit l'environnement, les pressions et tout, on pensait que les Russes se franchiraient par le... Du moins, dans les pays occidentaux, à part les États-Unis, hein, on pensait ça. Personnellement, je pense que si les États-Unis étaient aussi sur deux, c'est qu'eux faisaient tout pour que les Russes déclenchent la guerre. Donc ils faisaient tout pour ça. Mais les Européens n'y croyaient pas. Bon. Première possible chose, les Russes attaquent sur Kiev, avec la fameuse colonne de chars qui est sur Kiev. Si on fait l'analyse, c'est que les services de renseignement russes ont dû dire à leur président, pas de problème, en 3 jours, ils disparaissent. Ils vont se rendre, ils sont incapables de résister. Erreur stratégique majeure, mais erreur d'analyse des services russes. Je donne mon point de vue hein, sur la question, je précise tout de suite, mais ce serait intéressant d'écouter celui de Christophe Gomard. Échec. Pourquoi ? Parce que Zelensky dit « moi, je ne prends pas de taxi », qu'on lui avait proposé l'hélicoptère pour évacuer, il dit « on fait la guerre ». Bon. Deuxième temps, les Russes, les Russes changent d'axe, évidemment, ils ne vont plus s'intéresser au nord, puisque ça a loupé. Et on prend la mer Noire parce que c'est prioritaire. Et puis derrière, il y a le centre, c'est-à-dire le Donbass, et on essaie d'aller du Donbass vers le Dniepr. Parce que le Dniepr était, comme on l'a dit, une espèce de frontière naturelle avec la largeur de cette rivière. Et là, il y a encore des combats. On l'oublie, on parle de Kherson, hein, mais on oublie qu'actuellement, il y a des combats extrêmement durs dans le centre de la zone, si vous voulez, du Donbass, hein, autour de Bakhmut. Et vous avez aujourd'hui, il y a une vraie bataille en cours. Hein, et ce qu'on voit derrière, c'est que ça ne progresse pas. Alors, je me retourne pour ça vers Christophe Gomard, parce que quel est votre sentiment à vous? Est-ce qu'effectivement, on a assisté à un changement, dans le cadre de la guerre, un changement de cap après une première tentative qui a été un échec? Ou est-ce que c'était, comme l'ont dit certains, une diversion? Et puis derrière, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une stabilisation de la situation, une espèce de Verdun, hein, qui en plus va être favorisé par l'hiver?
Alors, Jean-Jean, en fait, pour moi, il y a 3 phases et peut-être une 4e dans cette guerre. La première phase, en effet, c'est que Vladimir Poutine et son armée étaient persuadés que Kiev et l'armée ukrainienne seraient écrasées en 3 jours.
C'est ça, c'est clair.
Alors, le renseignement russe, soit était-il mauvais, soit ils ont raconté pas la vérité, souvent, vis-à-vis d'un dictateur. C'est possible aussi pour se faire bien voir. Mais ce qui me fait dire ça, c'est que les soldats russes qui étaient dans ces colonnes d'assaut, les premières, avaient dans leur cantine leurs uniformes d'apparat. Il y avait des forces territoriales qui étaient là justement pour maintenir l'ordre une fois Kiev tombé. Donc c'était bien la preuve qu'en fait, ils pensaient que ça irait très très vite. Bon, l'opération, en particulier l'opération aéroportée sur Kiev et son aéroport, a raté de peu, de très peu, grâce en particulier effectivement au renseignement américain et grâce au fait que les Ukrainiens aient été répartis sur le terrain. Ils avaient ce qu'on appelle en langage militaire desserré, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient répartis de façon sortis de leur ville de garnison, sortis de leur caserne pour éviter d'être frappés par les éventuels tirs de missiles ou tirs d'artillerie. Ensuite, on assistait à une deuxième phase qui a quand même été une conquête, c'est-à-dire que l'artillerie russe est rentrée en action, détruisant tout devant elle et permettant à l'armée russe de progresser. Vous savez que la priorité dans l'armée russe, c'est l'artillerie.
C'est clair.
Contrairement aux armées occidentales, dans lesquelles la priorité, lorsqu'on attaque, ça va être l'aviation. En fait, dans la doctrine russe ou soviétique, c'est que c'est l'artillerie qui va ouvrir les couloirs de pénétration pour leurs avions. D'ailleurs, on voit bien, l'armée russe n'a jamais pris... l'armée de l'air russe n'a jamais pris, j'allais dire, la supériorité aérienne. Et il y a une espèce d'équilibre. Quand bien même Zelensky demande en permanence « il me faut de l'anti-aérien, il faut de l'anti-aérien ». En fait, je pense qu'il y a une espèce d'équilibre qui s'est joué, et une défense solaire ukrainienne beaucoup plus puissante qu'on l'imaginait. Ensuite, une 3e phase dans laquelle, effectivement, il y a une espèce de stabilisation, voire un recul des Russes, D'où d'ailleurs la mobilisation partielle annoncée, parce que pour changer le rapport de force, il fallait avoir une masse de soldats beaucoup plus importante que celle envoyée au préalable, ouais. C'est-à-dire entre 150 000 à 200 000 soldats. Mmh. Insuffisant pour oui. prendre l'Ukraine, insuffisant impossible. Pour prendre Kiev. On ne prend pas mmh. Kiev avec 20 000 ou 30 000 soldats. Oui, c'est impossible, clair. C'est une capitale. Mmh. D'ailleurs, on voit bien que Kherson, je pense que les Ukrainiens auraient eu beaucoup de mal à la prendre si les Russes... Oui. n'était pas parti. Et d'ailleurs, ça doit faire partie du deal. C'est-à-dire, en fait, pour éviter que Kherson soit détruite, vous vous repliez, et on vous laisse vous replier en bon ordre. Donc, voilà. Mais, et la quatrième phase...
– Attends, une seconde, c'est Paris en 44 avec von Scholtitz qui négocie la reddition. Si on peut dire que Paris reste une ville, absolument. On ne tire pas dessus, les troupes allemandes s'en vont et on ne tire pas sur Paris. C'est absolument. La même chose.
C'est la même chose. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de tir sur Kherson.
Il n'y a pas eu de tir sur Kherson.
Alors qu'on pouvait imaginer que Kherson serait entièrement piégé, qu'il y aurait des soldats laissés par derrière, habillés en civil, qui se feraient passer pour des résistants pro-russes qui défendent leur ville face aux envahisseurs ukrainiens, si je peux m'exprimer ainsi.
Il n'y a pas eu de mines et autres mises, puisque on voit le lendemain du départ des Russes, on voit Zelensky parader au absolument. Centre avec plein de gens autour. Donc, ça a été une opération évidemment arrangée.
Et donc, je pense que la quatrième phase dans laquelle on pourrait rentrer actuellement, c'est l'espèce de stabilisation au sud ou sur la rive gauche du Dniepr. Et effectivement, donc avec toute une partie quand même tenue par les Russes, qui est quand même assez importante. Il y a le Donbass, il y a toute une partie céréalière et il y a la Crimée. Est-ce que les Russes vont résister en disant « nous, on ne reculera pas » plus, et les Ukrainiens diront bah, « si, nous on veut revenir dans les frontières de 91 ». Mais là, on va trouver un deal. La population qui est en Crimée, je crois, est à 80% aujourd'hui russe, 20% restante ukrainienne, et dans le Donbass, on doit être à peu près des chiffres, des pourcentages à peu près équivalents. Reste la partie, effectivement, à l'est du Dniepr. Qu'est-ce que ça va devenir ? Donc pour moi, on rentre dans cette espèce de quatrième phase, un peu une espèce de guerre de position. D'où, effectivement, ce début de dialogue pour savoir qu'est-ce qu'on deal, en fait.
Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver, parce que c'est, comme on dit, il y a l'hiver aussi, il ne faut pas l'oublier, qui quand même complique, parce que ça, les Français le savent avec l'histoire de Napoléon et de la guerre, mais l'hiver complique considérablement la situation, parce qu'on ne se bat pas aussi facilement en hiver qu'en été, ne serait-ce que parce qu'on laisse des traces quand on se déplace.
Oui. Hein. Alors, je crois savoir que les Ukrainiens bénéficient d'équipements, les soldats ukrainiens bénéficient de tas d'équipements d'hiver, approvisionnés par les Canadiens, alors que côté russe, je crois qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement, parce que l'argent s'est évaporé, été perdu pour tout le monde, mais en tous les cas, il n'a pas permis d'acheter des équipements russes, des équipements d'hiver qui auraient dû être achetés. Néanmoins, il faut compter sur la résilience russe, qui est quand même très forte. C'est bien pour ça que je dis que les Russes n'ont pas encore perdu. Ils ont perdu des batailles, bien évidemment, dont celle de Kherson, mais ils n'ont pas encore perdu la guerre. Non. Quand on tient encore 17% du territoire ukrainien, on n'a pas encore perdu la guerre. Effectivement, on voit ce début de dialogue, c'est bien la preuve qu'on pense être arrivé à une espèce d'équilibre, avec ni gagnant, ni perdant. Et on en est là, finalement, aujourd'hui, dans cette espèce de phase de début de négociation. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, Alain, à Bakhmout, il y a toujours des combats. Il y a toujours des guerres sur des villages. Donc les troupes russes ne sont pas partout en recul.
Non, il y a des endroits où ils
avancent. Je ne dis pas qu'elles progressent.
Pas beaucoup, mais ils progressent.
Ouais. Exactement, exactement.
Mais alors, je me souviens que quand il y a eu la guerre en Corée, hein, là, je vais revenir en 1952, donc après la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez, il y a eu une guerre en Corée extrêmement violente entre les partisans de la Chine et les partisans du monde occidental. Et cette guerre, alors les Français ont envoyé un bataillon, il y avait un bataillon en Corée qui s'est battu remarquablement bien, qui avait impressionné les Américains. Il y avait les Américains, et à l'époque, il y avait MacArthur qui avait gagné la guerre contre le Japon, qui était le chef militaire de l'opération en Corée, et qui avait carrément dit « on va remettre des bombes nucléaires sur la Chine pour les faire piller en Corée ». Parce que c'était, par exemple, je pensais au nucléaire. Aujourd'hui, tout le monde a conscience que le nucléaire est un moyen de propagande en disant « attention, je pourrais vous tirer dessus », mais personne ne veut s'y amuser parce que tout le monde connaît les conséquences. Elle serait terrible pour les deux côtés. Là-dessus, il ne faut pas rêver.
Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que les gens parlent d'armes nucléaires tactiques. Une arme nucléaire tactique, aujourd'hui, c'est du deux fois, trois fois la puissance de la bombe d'Hiroshima et Nagasaki.
Oui,
donc, ça ferait et surtout, c'est-à-dire, ça laisserait sur le territoire ukrainien que les Russes voient comme russes, c'est-à-dire de la radioactivité, ça tirerait sur les populations. Oui. Non, je vois pas l'intérêt pour les uns comme pour les autres. Et c'est vrai que on s'en sert pour dire aux Européens attention, les Russes pourraient s'en servir. Donc continuez à soutenir Volodymyr Zelensky.
C'est ça.
Les Russes disent attention, on pourrait s'en servir.
Oui, bien sûr. Même chose
pour faire passer le message. Vis-à-vis des autres, en disant attention, ne me poussez pas dans mes retranchements.
Oui, c'est ça, mais je crois qu'il faut être sérieux là-dessus et bien ne pas être dupe. Mais alors, justement, quand on voit ce qui s'est passé en Corée, à un moment, la Corée, en plus, ça s'est passé en hiver, hein, c'est exactement un peu la même situation qu'aujourd'hui. Les troupes des deux côtés, à un moment, ont pris conscience qu'elles ne pouvaient pas gagner la guerre, et ça, c'est un peu le sentiment, la question que je voudrais vous poser. À l'époque, elles avaient pris conscience qu'elles ne pouvaient pas gagner la guerre. Et donc, on a dit, ils vont négocier. Et on a négocié carrément sur la ligne de front. Le fameux 40e parallèle qui a été négocié à Panmunjom, où on a fait a figé la ligne de front et qui est devenue une frontière. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de préparer ?
Alors, c'est bien possible. Parce qu'effectivement, je pense que les soutiens européens occidentaux de l'Ukraine sont prêts à continuer à soutenir, et ils l'ont tous dit, c'est à Zelensky décider quand il voudra la fin de la guerre, et on continuera de l'aider tant qu'il dira on continue la guerre. Maintenant, quand on regarde de manière pragmatique la réalité sur le terrain, je ne suis pas convaincu, même si l'armée ukrainienne aujourd'hui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que l'armée russe, et on voit bien que le soldat ukrainien de 2014 n'a rien à voir avec celui de 2022, qui est un soldat otanisé en réalité, avec des capacités, des moyens d'ailleurs de l'OTAN, de combattre l'OTAN, même s'il garde encore pas mal de matériel russe ou ex-soviétique. Et côté russe, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien qu'on avait une limite, on a perdu déjà beaucoup de soldats. Est-ce qu'on va aller beaucoup plus loin? Est-ce que déjà, en interne du régime de Poutine, il n'y a pas des gens qui disent, et on voit bien, il y a eu des Kadyrov, des Prigojine, qui se mettaient en avant, qui voulaient pousser le bouchon plus loin, alors que je pense qu'il y a des gens qui tentent à tempérer effectivement un Vladimir Poutine. Donc on voit bien qu'on arrive à une espèce d'équilibre. Est-ce que ça va se figer sur le terrain définitivement et qu'on va en rester là? Les uns et les autres se disant, mais attendez, les Russes disant, on reprendra un jour Kherson, le jour où on sera remonté en puissance, et les Ukrainiens disant, on va attendre de remonter en puissance, on va encore se moderniser, et grâce à la reconstruction, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on dit, les Russes doivent payer les destructions qu'ils ont occasionnées, très bien, comment on va leur imposer ça? Les Ukrainiens se disent qu'ils vont encore monter en puissance. Et on voit bien, cette armée ukrainienne aujourd'hui est très forte. Elle est bien équipée. Elle a une défense solaire puissante. Elle a des avions qu'elle n'a pas perdus, en réalité. Elle a une artillerie de plus en plus puissante grâce aux Occidentaux. Elle va changer ses chars. Et je ne doute pas un instant que les Américains vont leur vendre du matériel américain. Et donc, tout le matériel ex-soviétique va disparaître. Est-ce que on va arriver à une espèce de neutralité de l'Ukraine? C'est difficile à dire. Je ne sais pas ce que voudront les Ukrainiens à Volodymyr Zelensky. Derrière, effectivement, on s'aperçoit qu'on est passé d'un conflit entre la Russie et l'Ukraine à un conflit entre la Russie et les États-Unis.
Oui, États-Unis.
Et avec l'Europe en soutien, j'allais dire, en sparring partner.
Mais donc on peut se demander si, dans ce cadre-là, si la négociation. Alors, bien sûr, c'est Zelensky qui signera, c'est clair, mais est-ce que la vraie négociation, ça ne va pas être la Russie et les États-Unis? Avec, à la fin, Zelensky qu'on appelle pour dire « tu signes en bas ».
Ah, je pense qu'il y a certaines voix aux États-Unis qui se font entendre, selon lesquelles, effectivement, on dirait « faut pas prendre la grosse tête non plus, parce que si tu gagnes la guerre, mon cher Volodymyr, c'est grâce à nous ».
Donc, certes,
ne l'oublie pas. Grâce, effectivement, à la ténacité, à l'engagement ukrainien, parce qu'une des victoires de Poutine, c'est d'avoir créé une vraie nation ukrainienne.
C'est clair, ça c'est incroyable, mais il le pensait pas au départ, mais il l'a fait.
C'est une évidence.
Il a créé, en dehors des véritables russophones du Donbass, le reste est devenu ukrainien à 100%.
Ah oui, même des gens qui n'ont pas voté Volodymyr Zelensky disent aujourd'hui, je soutiens à fond Zelensky, même à Porochenko, qui est ancien président ukrainien, qui était un adversaire avéré d'un Zelensky, soutient, et on l'a vu, un bataillon qu'il paye lui, son propre argent.
Il y a eu une mobilisation générale.
Donc on arrive, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, les victoires de Poutine, c'est la création d'une véritable nation, un véritable sentiment national ukrainien, un OTAN qui se renforce, avec deux pays qui cherchent à adhérer, donc la Suède et la Finlande, et qui vont adhérer, bon, mis à part les réticences turques, mais pour tous les autres, sont très très favorables à ce que ces deux pays rejoignent, même si dans les cas, l'armée suédoise, en fait, était déjà engagée dans pas mal d'opérations. Pour avoir moi-même travaillé avec les forces spéciales suédoises, elles étaient déjà présentes. Elles étaient présentes au Mali, par exemple, dans le cadre de l'opération des forces spéciales au Mali. Donc oui, voilà les victoires de Poutine, finalement. Et d'une sans doute adhésion à terme de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qu'il ne voulait pas. Donc en fait, il voulait d'un glacis entre la Biélorussie et l'Ukraine face à l'OTAN qu'il pensait l'agresser. Il va trouver un modus vivendi sans doute, c'est l'est du Dniepr. Je ne sais pas si son armée est capable de tenir, mais en tous les cas, son armée aujourd'hui est incapable d'aller beaucoup plus loin.
On voit bien que la limite extrême, c'est le Dniepr. On revient. Or, si on revient à 1918, alors, au moment de la création de l'Ukraine après la chute de l'Empire austro-hongrois, on s'aperçoit que la Russie de l'époque contrôlait la partie jusqu'au Dniepr, l'Austro-Hongrois de l'autre côté, et le nord de l'Ukraine, c'était la Pologne. Donc en définitive, est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire ce qu'était l'Ukraine, enfin une partie de, avant 1918 ? C'est intéressant aussi de voir ça. C'est l'histoire. En fait, c'est l'histoire, hein.
L'histoire, on assiste à une espèce de tentative de résurgence des empires.
Eh oui.
L'empire perse avec l'Iran, l'empire ottoman, l'empire russe.
L'histoire est en train de faire une marche arrière, en définitive. Hein, et l'Empire chinois aussi.
Et l'Empire chinois, absolument. Alors, c'est vrai que cette volonté de refaire un empire russe, finalement, les empires, en fait, cessent le jour où il y a une défaite militaire.
Oui.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de défaite militaire russe.
Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Voilà. On est en équilibre.
Bon, les Russes habilleront ça comme une victoire. Il faut que les deux aient l'impression d'avoir gagné. Aucun des deux ne doit perdre la face.
On arrive à la fin de notre émission. Alors, je voudrais vous poser une question, mais Christophe, vous ne répondez pas, si vous ne pouvez pas, je précise tout de suite. Et les forces spéciales occidentales là-dedans, dans l'Ukraine. Est-ce qu'à votre avis, je vous pose, bien sûr, il ne s'agit pas de révéler des secrets, bien entendu, mais est-ce que, comme on le dit, parce que beaucoup de gens le disent, est-ce que les forces spéciales ont joué un rôle dans l'amélioration? Je ne parle même pas des combats. Moi, je ne parle pas des raids comme les Russes ont accusé les Anglais d'avoir fait le raid sur le pont de Crimée. Mais est-ce que, en définitive, les forces spéciales ont pu réellement aider le développement de cette armée qui est devenue une armée otanienne, l'armée... Et parce qu'au départ, quand même, quand on regarde, même s'ils avaient, en 2014, l'armée ukrainienne n'existait pratiquement pas, on voit qu'il y a eu un effort de l'OTAN qui les a formés, mais là, c'était avant la guerre, mais indiscutablement, il y a eu... Et puis maintenant, depuis, on voit qu'il y a quand même des liens considérables. Donc, est-ce qu'on peut penser que les forces spéciales, en général, ont un rôle dans cette affaire,
Alors, c'est vrai que pour les pays occidentaux, qui ne voulaient pas être co-belligérants, au sens je ne fais pas la guerre avec, je soutiens, il est probable, possible en tous les cas, qu'il y ait eu des conseillers militaires, alors je mets ça, ces deux mots entre guillemets, sous-entendu des gens qui vont aider à concevoir, à s'entraîner, à monter des opérations un peu difficiles, même si je pense que les Ukrainiens eux-mêmes avaient des capacités... ils ont monté sans doute des opérations très réussies contre les troupes russes, bénéficiant cela d'un renseignement humain grâce à des résistants ukrainiens qui l'ont permis de monter un certain nombre d'opérations. Même si, par exemple, celles que vous citiez tout à l'heure sur la centrale de Zaporijja n'ont jamais fonctionné et toutes celles qui ont été tentées ont été repoussées par les Russes.
Il y en a quand même eu, nombreuses, enfin on le sait, il y a beaucoup d'opérations qui ont été montées, des coups de commando qui étaient, montés.
Hein, oui.
Très bien montés.
Avec une émergence, je trouve, dans ce conflit, qui est l'OSINT, donc en fait l'Open Source Intelligence, donc en fait le renseignement ouvert, et on voit un certain nombre de ce que je vais appeler des OSINTeurs qui sont sur la toile et qui récupèrent un nombre d'images et on a une suite, une vision de la situation réelle sur le terrain, même si ces OSINTeurs peuvent être eux-mêmes influencés par des gens qui les alimentent avec des fausses informations. Mais c'est assez impressionnant de voir effectivement cette apparition dans cette guerre de ces sociétés. C'est vrai que le renseignement de source ouverte pour un service de renseignement est absolument essentiel, représente peut-être entre 80 et 90% du renseignement, ce qu'on appelle le renseignement fermé, c'est-à-dire avec des capteurs qui nous sont propres, que ce soit des satellites, des avions, des capacités d'interception ou des sources humaines, voire du cyber, par des attaques cyber, j'allais dire, attaques inodores et qui ne font pas de bruit, simplement pour recueillir du renseignement, permet de compléter. Mais on voit bien effectivement dans cette guerre, cette apparition d'un nouveau concept qui est l'OSINT, avec un tas de gens impliqués pour pouvoir soutenir l'Ukraine et qui ont finalement alimenté sans doute beaucoup plus que n'ont pu le faire les conseillers militaires mis en place ou non des forces spéciales occidentales.
Je rappelle pour nos auditeurs qu'on a fait une émission là-dessus sur l'OSINT, qui a eu beaucoup de succès, où justement on a évoqué ça il y a déjà quelques mois, et on évoquait cette évolution qui est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par ces moyens techniques, on arrive à savoir des quantités de choses sur beaucoup de choses. Alors qu'avant, c'était inimaginable. C'était le rôle des services et des...
Exactement.
Et ils n'y arrivaient pas toujours, loin de là.
Exactement. Donc en fait, ils reprennent, parce qu'il y a un tas de gens qui donnent ce qu'ils ont vu, qui mettent en avant les photos, j'étais à tel endroit, j'ai vu ça, c'est absolument incroyable. Il y en a certains qui sont très très pointus. Bien sûr, ça n'empêchera pas la propagande derrière, il faut pas se leurrer, c'est-à-dire l'influence, ou l'intoxication, plus exactement, plus que de la propagande, l'intoxication, parce que ça fait partie du rôle des services de renseignement,
et ça fait partie du jeu. Oui. Christophe, merci pour
ce. Je vous en prie.
Je crois que c'est très intéressant. Je pense que ça passionnera tous ceux qui nous entendent, parce que je crois qu'on a pu, pendant cette longue émission, et merci d'y avoir participé, ou donner des coups de projecteur sur beaucoup de choses qu'on n'évoque pas assez souvent lorsqu'on parle de cette guerre en Ukraine et de son environnement. Alors, mille merci. Et
merci
puis peut-être
vous.
À bientôt.
Qui sait ? Merci.
Merci, effectivement. Encore une belle émission, et il était nécessaire, je crois, de faire un point sur la situation en Ukraine qui évolue. Et là, je crois qu'on a eu vraiment des éclaircissements et peut-être une vision sur ce qui peut se passer dans quelques mois. J'ai même entendu parler de négociations. Alors, on peut espérer que tout cela prenne fin peut-être rapidement. Mais là, ça n'engage que moi. Merci et à très bientôt.